Au Camping Bar pour tous, en ce dimanche, nous sommes dans la province orientale, à Issyro précisément, avec notre partenaire sur place, la radio Nava. Et nous sommes ici avec Grégoire Mombi, qui est secrétaire du conseil de gestion à la radio Nava. Et avec vous, donc, Grégoire, nous allons découvrir Issyro. Issyro qu'on appelait à l'époque police. Issyro qu'on appelle également capitale de l'or vert. Donc, nous allons en savoir un peu plus avec vous, Grégoire Mombi.
Oui, mademoiselle Karine, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, là, Issyro, c'est le chef-lieu du district du Haut-Ouélé, l'un des quatre districts qui compte la province orientale. Administrativement, le district du, la cité d'Issyro est composée de 11 quartiers. Alors, sur le plan géographique, on peut la situer au, donc, au nord-est, à la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Ce que tu as dit tout à l'heure là, est tout à fait vrai. Et la cité était connue dans les temps sous le nom de police, du nom de Albert Police. C'est les Blancs qui avaient conduit les travaux de construction des chemins de fer de ses côtés. Et sur le plan économique, la cité était réputée pour sa grande production agricole et notamment la production cafetière qui allait jusqu'à qui représentait près de 60% de la production nationale. Et voilà pourquoi on l'appelait capitale de l'or vert. Et aujourd'hui, la cité connaît vraiment une dépression sur le plan économique. Et cette dépression est principalement due à l'enclavement. Et cet enclavement est consécutif surtout au délabrement très important des infrastructures routières, donc d'intérêt national, provincial, tout comme celles des terres, des dessertes agricoles, vraiment se trouvent dans un état de la praticabilité pour vraiment insister. Je pense que la cité du Sirop vit dans une situation très difficile sur le plan économique. Mm-hmm. Alors que sur le plan social, la ville, la cité du Sirop, héberge quand même certaines infrastructures sociales comme les hôpitaux, on en compte au moins 4, il y a des dispensaires de référence, il y a des écoles primaires, secondaires, professionnelles, on compte une trentaine. Nous avons également des universités, il y a une université qui a déjà produit ses premiers fruits, l'université de l'Ouélé, qui s'est implantée depuis 2001. Il y a aussi l'université évangélique du Congo qui s'est implantée tout récemment. Il y a aussi des instituts supérieurs, on compte 3, il y a l'Institut supérieur de commerce, l'Institut supérieur de technique médicale, il y a aussi l'Institut supérieur pédagogique. Et je pense que ce sont là, et la population sur le plan culturel, nous avons des tribus dominantes, il y a les Yogo, tous les Andes, les Mbetu, ainsi de suite. Je pense que dans l'ensemble, en plus bref, c'est de cette manière-là que je vous présente la petite cité d'Issyro.
Oui, alors vous parlez de la petite cité d'Issyro, vous avez parlé du café, ce qui d'ailleurs lui a valu l'appellation de la capitale de l'or vert, mais nous savons qu'à Issyro, il y a également des productions de l'huile de palme.
Oui, pour le moment, il y a en dehors du café, parce que le café avait fait vraiment les succès dans la cité ici, si Issyro était connu, comme je l'ai dit là, parce que c'était vraiment un centre d'attraction, donc ici on exportait les cafés, mais à un moment donné, suite il y a l'environnement socio-économique sur le plan mondial, il y a eu la baisse du coût des cafés sur le marché mondial, il n'y a pas un fonds important dans les budgets qui est toujours une part importante du budget alloué au secteur agricole, il n'y en a toujours pas dans ces pays. Il y a aussi le problème des traitements des cafés. Mm-hmm. Les mots de traitement post-récolte ici, si je peux même dire à partir de la récolte, c'est juste au traitement post-récolte, c'est à la dégradation de la qualité de notre café dans le champ. En plus de cela, il y a eu le problème aussi l'absence des structures de transformation. Usines performantes ou des torréfacteurs industriels, il n'y en a pas eu, ce qui a causé aussi avec l'enclavement, le délabrement des infrastructures, ça a conduit vraiment à une diminution sensible de la production, et la mévente, donc on faisait tout ce qui venait acheter les cafés, comme ils avaient des difficultés pour atteindre les producteurs qui sont généralement situés dans des milieux ruraux, ils devraient y aller avec les calculs rationnels à répéter le coût, les coûts de transport sur la marchandise, et comme ils ne pouvaient que se devant les producteurs et qu'il ne faut pas m'aider d'acheminer eux-mêmes leur production au niveau des centres urbains, à n'importe quel prix. Et ces prix-là n'étaient pas dans tous les cas rémunérateurs, ça conduit à la mévance et à une baisse de production, donc la population qui cultivait a vraiment connu une désaffection par rapport à cette culture-là. Mm-hmm. C'est ainsi que la population, pour gagner un petit revenu, s'est repliée sur l'exploitation de l'huile de palme,
oui,
artisanale toujours, parce que les huileries aussi ne fonctionnent plus. L'huile de palme, il y avait le canton, bon, pour le moment, le canton, on les cultive. Mais l'huile de palme, c'est, on les récolte dans l'état sauvage, hein, c'est la nature qui nous offre, et nous avons vraiment une végétation qui nous offre des palmiers. Donc, gratuitement, c'est de la générosité de la nature que nous vendons, nous produisons l'huile de palme ici. Donc, mm-hmm, il n'y a pas de palmeraie industrielle dans notre contrée.
Mm-hmm. Alors, vous avez parlé de la dépréciation plutôt de la cité de Isiro. Vous avez parlé, nous avions dit au début que c'est, vous aviez dit en fait, hein, c'est vous qui avez dit que c'est Albert Police qui a conduit les travaux de construction de chemin de fer. Est-ce que ces chemins de fer existent toujours jusqu'à présent? Il y avait une ligne
en fait. Les chemins de fer existent, mais. Mmh. Ils sont impraticables. Pour le moment, l'écartement des rails ne permet pas que des machines qui travaillent, donc il y a un écartement de 0,87 mètres, donc ça ne répond plus aux normes internationales. Mmh. Donc, pour le moment, on ne sait pas s'il faut avoir des machines, il faut passer des commandes spéciales.
On retient quand même que le chemin de fer n'existe pratiquement plus, hein?
Oui, les chemins sont là, mais c'est impraticable.
Okay.
Les chemins sont là, les rails sont là, mais impraticables.
Mm-hmm. Alors, il reste la voie fluviale.
La voie fluviale?
Oui, pour atteindre, par exemple, Kinshasa ou la liaison avec Bumba ou avec Kinshasa.
Karine, c'est très compliqué. Normalement, ici au Bumba, c'était par chemin de fer.
Oui.
Maintenant, il y a impraticabilité totale.
Mm-hmm.
Parce que Bumba, tenez le bateau pour atteindre la capitale. Ou bien vous prenez les camions de Siro jusqu'à Kisangani, et à partir de Kisangani, vous prenez les bateaux. Maintenant, possible, les camions ne sont pas alignés des camions de Siro jusqu'à Kisangani. Il faut, si vous voulez y aller, il faut faire Siro, Mambasa, Boutem, vous revenez sur Nyanya, et Nyanya, vous continuez. Alors que Siro, Mambasa, ça vous fait déjà 330 km au moins, et Mambasa, Nyanya, ça fait 190, vous voyez qu'on est dans les 520. Dans les 520 km, au lieu de faire 230 ici et direct, ici en Nyanya. Économiquement, c'est pas rentable.
Mm-hmm.
Vous voyez qu'il y a difficulté pour faire dans les temps, quand il y avait production de café, il y a la Bertesco, il y avait 10 ans, là, ils alignaient les camions, ici, jusqu'à Kisangani, et ça facilitait parce qu'ils comprenaient les cafés. Et on les acheminait directement à Kinshasa par bateau. Maintenant, il y a un café. Je ne sais pas si parmi les chantiers, les vrais chantiers, si on doit citer les routes, mais ici, les districts du Ouhou, où est-ce qu'on les retrouve partout, dans tout cela, on les retrouve presque, on les retrouve nulle part. Soit les tronçons qui mènent vers Bounia, les districts de l'Ituri, que ce soit vers là où qui mènent vers les districts de la Tchopo, rien du tout, nous sommes vraiment enclavés. Si les autorités peuvent prendre soin du district et voir comment les désenclaver.
Sur 90,5.
Grégoire Mondi, mais je rappelle que nous sommes à Isiro avec vous. Isiro, capitale de l'or vert, même si elle n'est plus tellement la capitale de l'or vert, cette cité de Isiro. Et nous découvrons donc Isiro avec vous. Grégoire Mondi, vous êtes secrétaire du conseil de gestion. Problème des routes à Isiro, c'est pratiquement un problème que connaît la RDC tout entière. Le pays pratiquement entier connaît ce problème de route. Nous savions aussi qu'il y avait un réseau routier qui permettait en fait à l'époque les liaisons commerciales avec l'Ouganda et le Soudan proche. Mais la façon dont vous nous parlez, nous avons l'impression que ce réseau routier n'existe pratiquement plus aussi.
C'est de retrouver les vrais lits de la route. Si vous prenez la route qui mène vers... parce que ici au Dungu, Faraj, et puis vous allez au poste frontalier de Abba. Maintenant, c'est impossible. Faire ça avec le camion 3 semaines, 4 semaines, et Dungu Faraj autant. Mais quand est-ce que, avec les marchandises, il y a Si on n'a pas des marchandises avec des bons emballages, vous risquez de perdre tout ce que vous avez comme marchandises. Et le temps que vous mettez, les pannes, tout cela, je pense à décourager bon nombre d'opérateurs économiques ici. La route est pratiquement... On est facile. La petite production par l'eau, et les jeunes gens décalent vraiment les eaux pour faire Isiro, Ariwara, et ici, c'est Ariwara, ça y met 10 à 15 jours par vélo, avec quelquefois plutôt plus de 60 kilos sur vélo, ou 60 ou 80 kilos par vélo pour amener jusqu'à Ariwara. Mais il faut aligner combien de vélos. S'il y a une production de 1000 tonnes, comme c'était dans les temps. Mais comment évacuer 1000 tonnes par vélo?
Voilà. Ça va être difficile. Alors j'ai dit, comment est organisée la vie à ici avec tout ce que vous avez comme problème d'évacuation de marchandises? Vous vivez comment? Ça se passe comment? La vie est organisée de quelle manière?
Bon, maintenant, qui alimente la ville aérienne. La voie aérienne qui... Je pense que nous prenons la cité d'Isiro s'approvisionne en manufacturier à partir de la ville de Butembo, de Beni et de Kampala. Donc il y a qui prennent l'avion à partir de Kampala, Beni Isiro, ou bien qui fait Dubaï en TD Isiro. Voilà, mais voilà la voie des transports, la voie aérienne coûte extrêmement cher, ce qui fait que les prix que nous avons ici sont presque les triples de ceux que vous avez à Kinshasa, c'est pour les manufacturer.
Mm-hmm.
Par exemple, une bière ici coûte 2500 francs. Donc, vous consommez la bière là à 500-600 francs ici, nous consommons, ou 700 francs ici, nous consommons la à 2500 francs pour nécessiter que ça.
Mm-hmm.
Et que, alors que la population a un pouvoir d'achat tellement faible.
Mm-hmm. Quand nous voyons là-bas la province orientale, nous voyons Kisangani, on sait qu'il y a des tolékistes. Enfin, Isiro.
Nous avons aussi des taximens.
Mm-hmm.
Mais quand je parle des taximens ici, car ce ne sont pas des taximens comme là, qui utilisent soit les bus, soit les voitures. Ici, on utilise des vélos. Ici, on utilise des motos. Mm-hmm. D'ailleurs, vous entendez parfois même les bruits des motos qui partent là, ce sont des taximens. Et ici on utilise beaucoup plus les motos. Je peux l'expliquer d'une part par le fait que vous ne saurez pas accompagner certains clients jusqu'à la maison parce qu'il y a des ravins par-ci par-là.
Mm-hmm.
Vous risquez de vous embourber dans un autre quartier. Et aussi le fait que notre cité, nous nous situons dans une zone de plateau.
Mm-hmm.
Le relief qui est dominant ici, c'est le plateau. Il y a, donc, dans la cité, il y a trop de collines. Pas moyen d'utiliser les vélos parce que ça va faire fatiguer aussi les cyclistes.
Mm-hmm.
Je pense que ce sont là, les deux principaux critères qui font que nous puissions beaucoup plus dans la cité recourir aux motos plutôt qu'aux voitures ou
bon. Alors, c'est un métier très masculin, on ne trouve pratiquement pas de femmes.
Oui, masculin parce que les filles sont presque plus. Mais au début, j'avais vu quand même une fille rouler avec ça, avec une moto, avec la plaque taxi. Il faut les reconnaître, on met quand même une plaque là devant la moto taxi pour soutenir le taxi. Vraiment, une indifférence de la part des clients masculins aussi pour. Et vous, les femmes, vous avez beaucoup de complexes entre vous. Et pour le moment, j'étais à presque plus de filles qui utilisent des motos pour taxis. Mais les week-ends, les filles utilisent les motos pour des promenades avec leurs copains ou pas, ou entre elles, elles utilisent. Il y a des motos, elles roulent facilement.
Mmh. Et ces taximens, hein, ils sont organisés en association. Et puis, est-ce qu'on retrouve forcément de jeunes ou c'est un métier qui ne dépend pas de l'âge?
Le métier, d'abord, pour le métier dépend de l'âge. Ce sont beaucoup plus les jeunes. Les jeunes sont majoritaires. Mais il y a aussi quelques mineurs de 16-17 ans, on peut les retrouver. La majorité, absolument, ce sont les jeunes gens, pas les vieux, on les trouve presque pas. Pour ce qui est de leur organisation, ils sont organisés, ils ont une structure qui œuvre dans l'association des chauffeurs Mais il est structuré au sein de cette association-là. On l'appelle ATAMOUM, Association des taximens de Louélé. Et j'ai été voir le président Rédempré, il m'a dit qu'on doit avoir au moins 100 qui sont affiliés et d'autres ne sont pas encore affiliés. Parce qu'ils ont des conditions pour l'affiliation, pour ça. Payer $5, pour adhérer, il faut payer $20. Et à partir de là, devenez membre de l'association ATAMOUM. Donc il y a un frais d'affiliation, un frais d'adhésion et aussi vous achetez la plaque là avec la mention taxi 1000 francs. C'est tout ce qu'il faut au niveau de l'association. Mais ils ont aussi des obligations du côté de l'administration publique. Donc ils doivent, l'État, il paye certaines taxes, mais ce n'est pas trop. Il m'a confirmé seulement que ce qu'il paye, il faut d'abord, les taxis doivent avoir un permis de conduire, doit assurer sa moto. Il doit aussi avoir un certificat de contrôle technique pour la moto. Je pense que et par jour, au niveau de l'association, parce que dans cette association, il y a aussi les propriétaires des motos, parce qu'ils ne sont pas dans tous les cas propriétaires de leur moto. Ils peuvent être simples, donc ils utilisent seulement la moto. Il y a dans cette structure-là, on retrouve aussi les propriétaires des motos. Et quand ils travaillent par jour, ils sont tenus à verser aux propriétaires de la moto 4000 francs par jour. 4000 francs.
Oui, allez-y.
Mais ils sont payés hebdomadairement. Donc les deux derniers jours de la semaine, ils travaillent pour leur compte. C'est-à-dire samedi et dimanche, ils travaillent pour leur compte. De lundi à vendredi, ils travaillent pour les comptes du patron.
Oui. Et une course coûte combien, par exemple, vous qui connaissez les trajets là-bas à Issiro, est-ce qu'il y a un prix, pour tout trajet ou il y a un prix selon les trajets?
Les prix, c'est selon les trajets. Par exemple, les trajets les plus courts. Quand je parle, si vous savez, c'est la ville, centre-ville et Mendambo, c'est une distance de tout au plus 2 km, on paye 300 francs. Vous voyez que le coût est presque élevé parce que les carburants aussi coûtent cher. 300 francs pour 2 km.
Et ces motos proviennent de Dubaï? Ça vient essentiellement d'où? Ça provient d'où ces motos?
Dubaï. Ça vient de Dubaï et ça passe par. Soit Beni, Boutembo ou soit par Ariwara. Ce sont des motos marque CG qui coûtent entre 700 et 800 $ américains.
Merci beaucoup, Grégoire Mombi, pour tous ces détails.
Avez-vous envie de découvrir votre pays? Avec Radio Okapi, c'est possible. Vous réveillez à Goma, faire un tour de Tolikiste en Bandaka. Nager dans le lac de Bukavu, manger du poisson à Kisangani, vous promener à Lubumbashi, écouter les femmes de Beni, découvrir les jeunes d'Ouvira, échanger avec un artisan de Kikwi. Apprendre à pêcher à Kalemi. Chanter une cantine avec les petits de Matadi. Manger les beignets d'une maman de Kananga. Danser avec un chanteur de Mbujimayi. Se reposer à Kindu. Grâce aux journalistes de Radio Okapi en province, tout cela est possible. Du lundi au dimanche, de 5h30 à 20h, hors de Kinshasa. Radio Okapi, pour entendre vivre votre pays.
Je rappelle Grégoire Mombi que vous êtes secrétaire du conseil de gestion de la radio Nava, une radio qui est partenaire à Radio Okapi. C'est donc grâce à notre partenaire sur place que nous sommes ici aujourd'hui avec vous. Vous avez cité plusieurs tribus, notamment le Yogo, les Zande, les Bangbetu, les Baboudou aussi. Et bien heureuse en arrivée, je savais à l'époque qu'elle était de Issiro.
Oui, Karine, en arrivée, était une originaire du Ouélé, mais beaucoup plus originaire du territoire de Wamba. Donc elle est de la tribu Boudou. Elle est Boudou, elle a eu sa vocation dans les territoires de Wamba, congrégation des sœurs de sainte famille, et elle a elle a trouvé la mort parce qu'elle ne voulait pas détruire sa virginité. Mais on l'avait amenée de Wamba jusqu'ici à Isiro, elle a été tuée et fusillée juste donc au sanctuaire qu'on appelle aujourd'hui Maison Bleue. Donc c'est juste en face de la gare, presque en face de la gare de Tefou, vous allez trouver un sanctuaire national qui est devenu sanctuaire national. La maison, on l'appelle Maison Bleue, mais sa dernière tombe pour le, on la trouve donc dans l'enceinte même de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la cathédrale de notre diocèse.
Alors, nous ne savons pas si cette pratique est toujours courante là-bas, chez les Boudous, cette façon dont cette tribu avait l'habitude de nouer un linge ou un foulard sur la tête afin de rallonger la tête de l'enfant. Ça se fait toujours, et si ça se fait toujours ou ça se fait plus, je ne sais pas. Et c'était quoi la signification, le sens même qu'il donnait à cet acte-là?
Ce n'était pas vraiment fréquent chez les Baboudou. Cette pratique-là était beaucoup plus fréquente chez les peuples Mbetu.
Ah, oui.
Donc, oui. Et cela faisait seulement la beauté dans la tribu Mbetu. Pour être beau ou belle, si on est femme, il fallait, dès l'enfance, on devait chaque fois lier la tête et chercher, donc, à donner à la tête une forme un peu allongée par derrière. Et parfois, vous trouvez d'autres qui perforaient les pavillons des oreilles. Les pavillons des oreilles pour se maquiller, je ne sais pas comment dire, c'était pour faire sa beauté. Et vous pouvez me trouver aujourd'hui des œuvres d'art dans la cité qui sont fabriquées sur base de cette esthétique-là.
Et c'était tout simplement pour raison d'esthétique, ça n'avait aucun sens au niveau de la tradition.
En tout cas, je ne sais pas donner un sens beaucoup plus profond que ça.
Mais aujourd'hui, cette pratique n'est plus d'actualité, en tout cas.
Elle n'est plus d'actualité, peut-être dans les confins vraiment qu'on peut retrouver, mais ici, dans la cité, dans les villages voisins de la cité ici, cette pratique-là n'est plus d'actualité.
Alors, la société est faite des hommes et des hommes de tribus, des ethnies comme ça, et ça fonctionne avec des tabous également.
Des tabous, ici, on n'a presque pas trop de tabous, mais je sais que c'est que nous avons plutôt des pratiques, par exemple, que nous ne savons pas tolérer entre nous quand, par exemple, deux familles s'unissent. Si, par exemple, il y a un problème, un cas de mariage, entre deux familles, il y a des limites. Par exemple, quand il faut partager les repas, je vais prendre un simple exemple, un beau père ne peut pas manger à côté de sa belle-fille. Donc, ce sont les particularités qu'il faut souligner. Ce sont des particularités qu'on trouve chez nous. Les Boudou, les Bayogo, donc ils ne savent pas partager le repas ensemble avec... partager un repas avec un beau-fils, une belle avec un beau-fils, ça ne passe pas. Ou tout comme un beau-père avec une belle, sa belle-fille, ça ne peut pas passer.
C'est...
Mais pour ce qui est des différentes viandes, on consomme tout. Nous consommons presque tout. Nous n'avons pas de viande tabou ici chez nous.
Et par rapport à l'initiation d'une jeune fille à la vie de couple, on sait que pour les cas des Lokélé, par exemple, il y a une préparation. La jeune fille, avant d'être atteint un certain âge, en tout cas, elle est préparée pour la vie conjugale. Est-ce que ça se fait également de l'autre côté à Isiro?
Oui, dans les temps, il y en avait, donc même aujourd'hui, au niveau des villages, pour ceux qui veulent se marier normalement, donc il y a cette pratique-là, il y a une initiation à la vie conjugale. Donc la tante paternelle doit entraîner sa fille, donc sa mère, c'est pour le mariage, il doit l'entraîner pendant un temps, tout comme du côté du futur époux, l'oncle doit aussi l'entraîner à la vie conjugale, même à la vie sociale, comment vivre, ainsi de suite, jusqu'à les conduire dans les toits, sur les toits conjugales. Mais pour ceux qui... cette éducation-là, ça porte sur tous les aspects de la vie, ça peut porter sur l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect sexuel, donc on apprend et fait tout à la jeune fille qui se prépare pour le mariage, ou qu'on prépare pour le mariage, et tout comme les jeunes garçons qu'on veut préparer pour un nouveau toit Mais il y a aussi des pratiques dans les territoires, dans les territoires de Wamban, les Babous, par exemple. Il y avait aussi dans les temps des pratiques où un papa pouvait désigner une jeune fille, même un bébé pour le mariage, et il pointe une jeune fille, même de 5 ans, du doigt, je vais épouser cette fille, et à la fin, il arrivait à doter et prenait cette fille-là sans tenir compte de l'âge ou quoi. Mais il y avait aussi une autre pratique qui consistait tout simplement, quand un jeune garçon découvre une belle fille de notre village, et il s'arrange avec ses amis ou ses frères, le jour du marché ou d'une manifestation quelconque, il prend des forces et la fille est sur la main au village voisin, là où les messieurs habitent. Et après, à l'arrivée, ils vont hisser une étoffe d'habit ou comme un drapeau et ils vont commencer à taper au bon chef soir et matin pour signifier que la fille qui a été enlevée à tel endroit se retrouverait dans telle parcelle. Maintenant, il appartiendra aux jeunes gens de cette famille-là de venir vérifier. Et quand ils viennent vérifier, ils vont piller, ils vont manger, boire, et puis les villages qui a reçu la jeune fille et qui vont rentrer. Ce n'est qu'après que les parents viendront pour s'acquérir de la vraie situation et aussi pour récupérer la dot.
Ah, ok. Alors, nous retenons, mais avant de nous quitter, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter.
Oui, Karine, ce que je peux ajouter, j'ai rejoint aussi les problèmes de la vie économique de la cité, parce que pour le moment, le problème des cafés, ça nous tient au cœur. Les vendeurs de ce même mois, le comité de district qui a sorti un arrêté, il a interdit la vente des cafés torréfiés artisanalement sur tous les marchés du district. Mm-hmm. Vous voyez que cette décision, elle est venue tout simplement parce qu'il y a un mauvais, comme je l'avais dit, des mauvais procédés de traitement pour les récoltes des cafés, mm-hmm. et aussi même pour la préparation, la torréfaction des cafés artisanalement, elle s'est faite d'une manière abusive parce qu'il y a non seulement au début le fait qu'on torréfie les cafés à moitié décortiqués, il y a aussi le fait qu'il mélange ces torréfacteurs artisanaux, mélange parfois les cafés à d'autres produits, des produits qui sont toxiques donc à la santé. Et c'est pour cela que le conseil des districts a suspendu ou a arrêté tout simplement la vente de ces produits-là. Mais il n'y a aucune autre boisson chaude en remplacement des cafés sur les marchés. La population, en même temps, elle a besoin d'étancher sa soif. Devant ce problème, j'aimerais lancer vraiment un appel aux autorités publiques et aux investisseurs de pouvoir venir chercher comment investir dans ces domaines-là pour que la population puisse se retrouver dans sa boisson. Sinon, je pense qu'en interdisant la consommation des cafés sous cette forme-là, on est en train de décourager aussi les producteurs. Et en décourageant les producteurs, il n'y a pas une autre source de revenus pour la population. Je pense que cette décision, avant qu'on puisse la revoir, il vaut mieux que les gens sachent déjà qu'il y a intérêt là où on peut investir, intérêt vraiment et une entreprise florissante et très rose ici pour la torréfaction des cafés.
Ok, merci beaucoup Grégoire Mombi. Je rappelle que vous êtes secrétaire du conseil de gestion à la Radio Naval. Nous découvrions donc ici aujourd'hui avec vous. Nous étions ici avec vous. Merci de nous avoir fait les tours de cette cité. Et nous saluons tous les habitants d'Issyon qui nous écoutent en ce moment. Au revoir.
Au revoir.